Il pleuvait cette nuit-là. Pas très fort, mais c'était une de ces longues pluies caractéristiques de l'automne, qui ne semblait pas près de s'interrompre. Comme une confession monotone mille fois réitérée. Kino finit par ne même plus savoir quand la pluie avait commencé de tomber. Le froid et l'humidité s'insinuaient partout, ce qui provoquait chez lui un sentiment d'impuissance. Il n'avait plus l'énergie de prendre un parapluie et de sortir pour aller dîner. Il pouvait tout aussi bien se passer de manger. De minuscules gouttes de pluie recouvraient la fenêtre à côté du lit, dessinant des motifs qui ne cessaient de se renouveler. Perdu dans un flux de pensées incohérentes, Kino observait ces imperceptibles transformations sur les vitres. Au-delà, il distinguait ça et là des bâtiments sombres alignés. Il prit une petite fiole, se versa un whisky, y ajouta la même quantité d'eau minérale et but son verre. Pas de glaçon. Il n'avait pas le courage d'aller dans le couloir en chercher au distributeur. La boisson tiède s'accordait bien avec la mollesse de son organisme. À Kumamoto aussi, il descendit dans un business hôtel bon marché, tout près de la gare. Plafond bas, lit étroit, télé de petite taille, baignoire minuscule, frigo microscopique. Dans cette chambre, tout était si réduit qu'il avait l'impression d'être un géant difforme. Mais cette exiguïté ne l'affecta pas particulièrement, et il resta cloîtré à l'intérieur toute la journée. Il pleuvait, et à part une courte sortie à la supérette la plus proche, où il acheta une petite bouteille de whisky, de l'eau minérale et des crackers, il ne quitta pas sa chambre. Allongé sur le lit, il lut. Quand il en eut assez de lire, il regarda la télévision. Quand il en eut assez de la télévision, il se remit à lire. Ce fut enfin son troisième jour à Kumamoto. Il lui restait suffisamment d'économie pour s'offrir un hôtel plus confortable. Mais pour le moment, il avait le sentiment que ce genre d'endroit lui convenait. En étant confiné dans un lieu aussi petit, il n'avait pas besoin de réfléchir à des choses inutiles. Il lui suffisait d'allonger le bras pour atteindre ce qui lui était nécessaire. Bizarrement, il en éprouvait de la gratitude. Il aurait pourtant aimé pouvoir écouter de la musique. Parfois, il aurait tout donné pour entendre de vieux jazzmen, Teddy Wilson, Vic Dickinson ou Buck Layton. Des musiciens à la technique impressionnante et aux accords simples. Il aurait tellement voulu ressentir le bonheur pur qui s'emparait d'eux lorsqu'ils jouaient, connaître leur merveilleux optimisme. Mais la musique à laquelle aspirait à présent Kino n'existait plus aujourd'hui, et sa collection de disques était loin. Il vit en pensée son bar, complètement silencieux, les lumières éteintes. La ruelle, le grand saule. Les clients s'approchaient, lisaient le mot qu'il avait laissé, et repartaient. Et le chat, qu'était-il devenu? S'il avait voulu entrer dans le bar, il avait sûrement été déçu de trouver la chatière obstruée. Les mystérieux serpents encerclaient-ils toujours la maison? De sa fenêtre au septième étage, il avait vu sur un immeuble de bureau, un bâtiment long et étroit, quelconque. Du matin au soir, il observait les gens qui travaillaient là. Parfois, les stores étaient baissés, aussi n'apercevait-il alors que des silhouettes. Il ignorait quelle était la nature exacte des activités de ces hommes en cravate qui entraient et sortaient, de ces femmes qui pianotaient sur leur clavier d'ordinateur, parlaient au téléphone, rangeaient des dossiers. Ce n'était pas à proprement parler une vision exaltante. Les attitudes et les vêtements des employés étaient ordinaires, banals. La seule et unique raison pour laquelle Kino observait ces gens sans se lasser était qu'il n'avait rien d'autre à faire. Et ce qui était pour lui le plus extraordinaire ou le plus surprenant, c'était la joie qu'il manifestait parfois. Il en voyait même qui riaient aux éclats. Comment était-ce possible? En travaillant ainsi toute la journée dans les bureaux dépourvus de charme, en accomplissant des tâches qui, du moins aux yeux de Kino, paraissaient complètement inintéressantes, ils arrivaient cependant à avoir l'air si joyeux. Y avait-il, là derrière, quelques secrets précieux qui demeuraient pour lui incompréhensibles? Cette pensée le tourmentait. Il était temps néanmoins qu'il se remette en route. Ne restez jamais longtemps au même endroit, lui avait dit Kamita. Pourtant, sans très bien savoir pourquoi, il avait du mal à quitter ce petit business hotel de Kumamoto. Il ne parvenait pas à imaginer un endroit où il aimerait aller, un paysage qu'il aurait envie de contempler. Le monde était un océan immense dépourvu de repères. Kino lui-même, un petit bateau qui avait perdu ses cartes maritimes et son ancre. À peine eut-il déployé un plan du Kyūshū pour savoir où il pourrait bien se rendre, qu'il se sentit nauséeux, comme s'il avait le mal de mer. Il s'allongea sur le lit, lut un moment, levant la tête de temps en temps pour observer les employés de l'immeuble d'en face. Il avait la sensation qu'au fur et à mesure que le temps passait, son corps devenait plus léger, sa peau transparente. La veille, c'était un lundi, Kino avait acheté à la boutique de l'hôtel une carte postale avec une photo du château de Kumamoto. Il avait écrit au stylo bille le nom et l'adresse de sa tante à Izu. Il avait collé un timbre, puis il s'était laissé aller à contempler longuement l'image. Une photo parfaitement conforme à ce que l'on attend d'une carte postale. L'impressionnant château fortifié se détachait sur un fond de ciel bleu, parsemé de quelques nuages blancs. L'un des trois châteaux les plus célèbres du Japon, également appelé le château Ojinko, disait la légende. Kino avait beau observer la carte, il ne parvenait pas à détecter de point de contact entre lui et ce château. Puis, cédant à une impulsion soudaine, il avait retourné la carte postale et écrit. « Est-ce que tu vas bien ?»« Et ta hanche ?»« Moi, je voyage seul. J'ai parfois le sentiment que je suis à moitié transparent. L'impression qu'on pourrait voir mes organes internes, comme une sèche qui viendrait d'être pêchée. Mais sinon, je vais bien. J'espère te rendre visite bientôt à Izu. Kino. » Kino ne savait pas très bien ce qui l'avait poussé à rédiger ces lignes. Kamita lui avait strictement interdit d'écrire quoi que ce soit. Il ne devait noter que le nom et l'adresse de sa tante. « Surtout, ne l'oubliez pas », avait-il insisté. Mais Kino n'avait pu résister à son mouvement. Il lui fallait d'une façon ou d'une autre retrouver un lien avec la réalité. Sinon, il ne serait plus lui. « Je serai un homme qui n'a plus d'existence », pensait-il. La main de Kino avait rempli presque automatiquement le petit espace vide au dos de la carte postale, traçant des caractères minces mais robustes. Et avant de changer d'avis, il avait glissé en hâte la carte dans une boîte aux lettres, tout près de l'hôtel. Lorsqu'il s'éveilla, le réveil digital à côté de son lit indiquait 2h15. Quelqu'un frappait à sa porte. Ce n'étaient pas des coups très forts, mais ils étaient fermes et précis, semblable à ceux d'un bon charpentier qui enfonce un clou. Et ce quelqu'un qui toquait à la porte savait parfaitement que ce bruit parviendrait aux oreilles de Kino, qu'il le tirait de son sommeil profond, qu'il l'arracherait à ce repos éphémère et miséricordieux, et projetterait sur sa conscience des lumières aveuglantes et cruelles. Kino savait qui frappait à sa porte. Ses coups-ci exigeaient qu'il se lève, qu'il ouvre. Il le demandait avec force, avec obstination. Ce quelqu'un n'était tout de même pas capable d'ouvrir la porte de l'extérieur. Elle ne pouvait l'être que de l'intérieur, de la main même de Kino. Kino prit conscience que cette visite était ce qu'il attendait plus que tout, et que, en même temps, elle était ce qu'il redoutait plus que tout. Une ambivalence, en fin de compte, qui le coinçait dans un vide entre deux extrêmes. « Je t'ai blessé, ne serait-ce qu'un peu ?» lui avait demandé sa femme. « Je suis humain, alors oui, j'ai été blessé, » avait-il répondu. Mais ce n'était pas la vérité, ou du moins pas entièrement. « Je n'ai pas été suffisamment blessé au moment où j'aurais dû l'être, » reconnut Kino. « J'ai étouffé mes sentiments chaque fois que j'aurais dû éprouver une vraie souffrance. » En refusant de l'accepter dans toute son intensité, j'ai évité d'affronter la réalité. Aussi mon cœur est-il perpétuellement rempli de vide. Les serpents se sont levés dans la place et ont tenté de s'y cacher, avec leur corps froid et les battements de leur cœur. Je ne suis pas le seul à trouver ce lieu agréable. Bien d'autres, c'est évident, s'y sentent à l'aise, avait dit Kamita. Kino comprenait à présent ce qu'il avait voulu dire. Kino tira sur lui l'édredon, ferma les yeux, se boucha les oreilles des deux mains et se blottit dans son petit monde bien à lui. Il s'efforçait de ne rien entendre, de ne rien voir. Mais il ne pouvait faire disparaître ses coups. Il aurait beau fuir au bout du monde, se boucher les oreilles avec de l'argile, il le suivrait partout, tant qu'il vivrait et qu'il lui resterait si peu que ce soit de conscience. On ne frappait pas à la porte du Business Hotel, on toquait à la porte de son cœur. À ces coups-là, les hommes n'échappaient pas. Et jusqu'à l'aube, à supposer qu'il y ait une nouvelle aube, les heures seraient encore longues. Il ne savait pas très bien combien de temps s'était écoulé quand il s'aperçut que les coups avaient cessé. Il régnait de nouveau un silence absolu, comme sur la face cachée de la lune. Mais Kino resta enfoui sous l'édredon, sans faire le moindre mouvement. Il devait rester prudent. Il retint son souffle, tendit l'oreille pour tenter de percevoir des signes funestes au sein de ce silence. Ceux qui se trouvaient de l'autre côté de la porte n'allaient pas abandonner la partie aussi facilement. Ils n'étaient pas pressés. La lune n'était pas levée. Seules quelques constellations mortes flottaient dans le ciel, très noir. Le monde leur appartenait, encore pour un moment. Ils avaient le choix entre différentes méthodes. Ils pouvaient à leur gré adopter les formes les plus diverses. Des racines sombres pouvaient se propager partout sous terre, patiemment. En prenant tout leur temps, en détectant les points faibles, ils étaient capables de fracasser même les roches les plus dures. Et puis, comme Kino s'y attendait, les coups recommencèrent. Cette fois, ils venaient d'une autre direction, et ils résonnaient différemment. Ils étaient beaucoup plus proches. Kino les entendait littéralement dans l'oreille. Ce quelqu'un semblait à présent être juste à l'extérieur de la fenêtre, située à côté de son lit. Il devait se cramponner au mur de l'immeuble de cet étage, coller son visage à la fenêtre pour tambouriner avec insistance. Toc-toc, toc-toc, sur les vitres noyées de pluie. Kino ne pouvait rien imaginer d'autre. Seul le rythme n'avait pas changé. Deux coups, puis de nouveau deux coups, et après une courte pause, encore deux coups, sans cesse recommencer. Les bruits résonnaient d'une manière étrangement forte, puis faible, comme les battements d'un cœur spécial habité d'émotions. Les rideaux de la fenêtre étaient restés ouverts. Avant de s'endormir, Kino avait de nouveau contemplé les motifs que dessinaient les gouttes de pluie sur les vitres. Il pouvait à présent imaginer ce qu'il verrait sur les carreaux sombres, s'il sortait la tête de sous l'édredon. Non, il ne le pouvait pas. Il lui fallait anéantir toute capacité à imaginer. « Je ne dois en aucun cas voir ça, » se disait-il. « Si vite qu'il soit, c'est encore mon cœur. » Même en quantité insignifiante, il y a encore de la chaleur humaine à l'intérieur. Il y a des souvenirs qui attendent la marée silencieusement, comme des algues enroulées à des pieux sur le rivage. Quelques-uns verseraient un sang bien rouge, s'ils étaient entaillés. Je ne peux absolument pas laisser mon cœur errer à l'aventure, dans je ne sais quel lieu inconcevable. Mon nom s'écrit avec le caractère Kami, Dieu, et Ta, rizière, et se prononce Kamita, et pas Kanda. J'habite tout près d'ici. Je m'en souviendrai, avait dit le gros. C'est une bonne idée. Les souvenirs peuvent être utiles, avait répondu Kamita. Soudain, Kino pensa que Kamita avait peut-être un lien, d'une façon ou d'une autre, avec le vieux saule du jardin. Ce saule qui les protégeait, lui et la petite maison. Il ne comprenait pas très bien la logique de tout cela, mais une fois que cette pensée se fut imposée à lui, toutes les pièces du puzzle lui parurent se mettre en place. Kino revit mentalement le saule à la frondaison exubérante qui retombait presque jusqu'au sol. En été, l'arbre offrait son ombre fraîche dans le petit jardin. Les jours de pluie, d'innombrables gouttes argentées étincelaient sur ses branches flexibles. Quand il n'y avait pas de vent, il s'abîmait dans une profonde méditation. Mais si le vent se levait, il s'ébrouait à sa guise, en toute liberté. Piaillant à qui mieux, de petits oiseaux se posaient habilement sur ses tiges souples, les faisant ployer avant de s'envoler de nouveau. Les rameaux minces oscillaient joyeusement durant quelques instants. Kino se recroquevilla comme un insecte sous l'édredon, ferma les yeux avec force, tenta de ne penser qu'au saule. Il en revit tous les aspects, ses couleurs, ses formes, ses mouvements, puis il pria pour que l'aube arrive enfin. Il n'avait d'autre choix que d'attendre stoïquement qu'apparaisse les clartés du matin, que les corbeaux et tous les autres oiseaux s'éveillent et entament leur activité diurne. Il ne pouvait qu'avoir foi dans les oiseaux, dans tous les oiseaux du monde qui avaient des ailes et un bec. Il ne pouvait laisser son cœur en jachère jusque-là. L'espace vacant, le vide qui s'était créé dedans, les attirait à l'intérieur. Lorsque les images du saule ne furent plus suffisantes, Kino pensa aux chats gris et minces, et se souvint combien il aimait dévorer les feuilles d'algues grillées. Il revit aussi Kamita, assis au comptoir, absorbé dans un de ses livres. Il revit les jeunes coureurs s'entraînant mille fois sur les pistes. Il se rappela le merveilleux solo de Ben Webster dans My Romance. Le disque craquait à deux endroits. Les souvenirs peuvent être utiles. Puis il revit sa femme, avec sa nouvelle robe bleue, ses cheveux coupés courts. Kino espérait qu'elle menait à présent une vie heureuse, dans son nouvel environnement, et qu'elle ne portait pas de marque de blessure sur le corps. Elle lui avait présenté ses excuses, et il les avait acceptées. « Je ne devrais pas seulement oublier, pensa-t-il. Je devrais savoir pardonner. » Le mouvement du temps ne semblait cependant pas être correctement fixé. Le poids sanglant du désir et l'encre rouillée du repentir allaient à l'encontre de son flux normal. Il n'y avait pas de flèche qui filait en ligne droite. La pluie continuait de tomber. Les aiguilles du réveil hésitaient. Les oiseaux étaient encore plongés dans un sommeil profond. Un employé de la poste sans visage triait en silence les cartes postales. Les jolis seins de sa femme se balançaient en l'air. Quelqu'un continuait à frapper, obstinément à la fenêtre. Sans cesse, avec une régularité parfaite, comme pour l'entraîner dans un dédale plein de promesses. Toc, 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 toc. Et de nouveau, toc, toc. Ne détourne pas les yeux. Regarde-moi, lui murmurait-on à l'oreille. C'est à cela que ressemble ton cœur. Les branches du saule oscillaient sous la brise du début de l'été. Dans une petite chambre sombre, quelque part à l'intérieur de Kino, quelqu'un allongeait la main pour la poser sur la sienne. Les yeux fermés, il sentit son poids, sa chaleur, sa douceur. C'était quelque chose qu'il avait oublié depuis très longtemps, dont il avait été mis à l'écart. Oui, j'ai été blessé. Très profondément, se dit Kino. Et ses larmes coulèrent, dans cette chambre calme et obscure. La pluie ne s'interrompait pas, noyant le monde dans une froide humidité.